Le spectacle va commencer. Et ce spectacle est unique.
Principe actif.
Un spectacle enfin digne de l'univers.
Ça sera un spectacle, crois-moi.
Inutile de retenir vos places. Vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable. Ça me rappelle ma jeunesse.
Ça commence bien.
Et le spectacle continue.
Bienvenue pour cette nouvelle saison radiophonique. Aujourd'hui, on prolonge la période estivale pour une discussion captée sous une tonnelle dans un camping situé près d'un lac au mois d'août de l'année 2024. Un débat s'instaure sur des sujets de société dans une ambiance de fin de soirée avec des intervenants qui se sont pris au jeu. C'est parti pour une petite heure de conversation et d'échange. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure du débat, le débat du camping. Dans un petit coin bien sympathique à côté du lac de la Mort. Et je suis sous une tonnelle en compagnie de quelques campeurs.
T'as préparé des questions ?
J'ai préparé quelques réflexions. Ça va aller dans tous les sens. Bon, je vais commencer par un sujet, la culture par exemple. C'est intéressant parce que là, on a donc le milieu urbain, hein, puisque Vianney vit en ville. Et puis nous avons Baptiste qui vit en milieu rural, on peut dire.
Marécageux.
Et je voulais savoir justement la culture, comment on la vit. Est-ce que ça change la perception sur le monde qui nous entoure, Baptiste ? Toi qui vis en milieu rural.
Ouais, la culture, c'est clairement différent dans le milieu rural. Bon, en l'occurrence, il faut que je l'atteigne et c'est pas facile de l'atteindre. Après, on sait tous qu'avec Internet, on peut consommer de la culture facilement. Le problème, c'est que l'art vivant est beaucoup plus difficile à atteindre que dans une ville comme Rouen.
Et Vianney, que peux-tu dire sur la perception que ça a, l'impact de la culture dans le milieu urbain, qui est donc un milieu où la culture semble a priori plus accessible ?
Oui, la culture est plus accessible parce que en fait, on est beaucoup plus nombreux sur le même endroit. C'est la caractéristique principale du milieu urbain. Et donc, on est beaucoup plus entassés les uns sur les autres. Et donc, moi, je voulais revenir quand même sur cet aspect de sacrifice quand même que font tous les urbains de manière générale. Ils acceptent quand même beaucoup de contraintes dans leur vie de tous les jours et déjà de supporter tous les voisins autour d'eux. Pendant ce temps-là, tous les gens à la campagne, ils peuvent se balader comme ils veulent tranquillement, ils peuvent s'installer des piscines dans leur jardin. Je trouve qu'on ne souligne pas assez en fait le sacrifice des gens des villes. Alors c'est normal qu'ils aient un petit peu de compensation, comme le fait de pouvoir avoir accès à plus de culture et notamment à l'art vivant, mais c'est normal qu'il y ait plus d'art vivant parce qu'il y a plus de gens.
Bob veut prendre la parole.
Alors moi, pour parler de la culture, déjà, je pense qu'en milieu rural, c'est plus simple. Parce que quand t'es dans la ville, la culture, c'est compliqué. Pour faire pousser ses légumes, ses fruits, y a pas trop d'espace, quoi.
Bon, Thibaut, toi qui viens de la campagne.
Je cherche une maison secondaire en campagne, forcément. Tu vois. Ouais, une troisième maison.
J'ai pris l'exemple urbain et rural, mais j'aurais pu prendre autre chose. Mais est-ce que ça, quand on n'a pas accès à la culture, est-ce que ça a un impact ?
En fait, il y a une sacrée différence entre la culture urbaine et la campagne. Chez nous, on est tous des droitards. Et en fait, en ville, on sait bien que ça vote quand même beaucoup plus à gauche. Et à mon avis, la raison, c'est que la culture est beaucoup plus présente. Et il y a peut-être une habitude de faire des concessions, justement, ce que disait Vianney. Les voisins sont proches, il faut composer, quoi. En milieu rural, c'est plus brut, quoi.
Thibaut.
Je pense que le problème de la culture en rural, c'est pas qu'il y en a moins, c'est que les artistes peuvent pas faire toutes leurs dates en campagne. Donc ils se déplacent, mais il y a moins de public, parce que c'est beaucoup plus épars.
Une réaction ?
Oui, c'était par rapport au fait de la quantité. C'est pas facile d'évaluer la quantité de culture qu'il peut y avoir à tel ou tel endroit. Mais aussi, oui, cette proximité entre les gens qui peut exister dans la ville, même s'il y a aussi une part d'indifférence et tout ça. Ça crée aussi des possibilités, ça crée des frictions, ça crée aussi des compromis. Et pendant ce temps-là, à la campagne, ce qui va être le principal vecteur de la culture, en fait, c'est les réseaux, que ce soit les réseaux télévisés, la radio, et puis maintenant l'ordinateur, internet et tout ça.
Comme ils ne sont pas proches les uns des autres, ils vont être beaucoup plus perméables à une culture de masse distribuée par les masses médias. Et donc si on dit que à la campagne l'extrême droite est très puissante, c'est peut-être aussi parce que la télé est très puissante dans les maisons individuelles isolées. Voilà.
On serait plus isolé à la campagne, moins en ville, mais est-ce qu'on se rencontre plus à la campagne ou plus en ville? C'est deux choses indépendantes finalement. On se rencontre moins en campagne, mais on se connaît mieux par contre, non? On se connaît pas du tout. Il y a plus les petits bars de campagne, ça s'existe de moins en moins. C'est vrai qu'il y a moins de proximité parce qu'il n'y a plus les services publics à la campagne. Il y a plus... Et c'est ces choses-là avant qui rassemblaient les gens, et peut-être qu'avant, il y a moins d'isolement les uns et les autres, peut-être.
Ok.
Audrey qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Audrey.
Oui, là vous me prenez de court là. Je sors de la douche. D'ailleurs, t'as dû piquer mon savon, non? Je n'ai pas retrouvé. Alors concernant la culture en milieu rural, oui, c'est pas toujours simple. Enfin, en gros, si vous n'avez pas de voiture, c'est même mission impossible.
On va passer au deuxième sujet, les écrans. Que pensez-vous de la télé allumée chez les gens, d'une part, ou de la télé allumée dans les lieux de vie, je sais pas, dans les bars, dans les restaurants? Après, je ne parle pas forcément de la chaîne qui est diffusée, hein, ça peut être un match, ça peut être des clips ou surtout les chaînes info, ça pourrait être intéressant d'en parler. Alors Audrey va commencer.
Moi personnellement, je vis assez comme une agression parce que je n'ai pas l'habitude en fait. Et ça capte mon attention, peu importe l'émission, plus c'est bête, plus ça fonctionne. Que ce soit de la publicité, des émissions, des films, peu importe. Mais donc, moi je suis infirmière à domicile et les gens ont souvent la télé allumée, enfin souvent, pas tous, hein, mais ça arrive avec ou sans son. Il y a les deux. Et j'ai pris l'habitude de me mettre dos à l'écran, voilà, pour être vraiment à l'écoute de, notamment de mon patient là, parce que sinon ça capte l'attention et on a du mal à être vraiment pleinement avec les gens. Je trouve ça dommage aussi qu'il y en ait dans les lieux comme les restaurants ou les bars, pourquoi pas, les matchs ou des choses comme ça, pourquoi pas, mais les informations, je trouve ça difficile parce que c'est toujours très violent, donc dans un lieu comme un bar ou un restaurant.
Ok, merci Audrey. Hanouna, idole. Bob veut réagir peut-être. Il parlait d'Hanouna. Hanouna, c'est mieux avec ou sans son, Bob?
Hanouna, je m'en fous d'Hanouna, je rigolais. Je pense que les gens qui regardent la télé, là, c'est quoi ce bruit, là? Je pense que les gens qui regardent la télé, des fois, c'est parce que ils sont seuls, et ils ont besoin d'animation. Et peut-être qu'ils se rendent pas compte de la cause écologique, de l'électricité utilisée pour ce genre de choses. Mais qu'ils sont tout seuls chez eux, peut-être pas d'animaux, pas de partenaires, si je peux dire. Et peut-être qu'allumer la télé, mettre du son, permet d'avoir des rapprochements avec les gens sans sortir de chez soi.
Merci Bob. Bon, moi j'ai une chose à dire. Je pense que la télé, c'est de droite.
Merci Baptiste. Bob veut réagir.
Moi, je pensais pas du tout au contenu vidéo. Moi, je pensais juste à l'audio. Des gens qui veulent juste entendre parler, pas forcément écouter ce qu'il dit, mais juste entendre des gens dire des choses.
Eh bien, je voulais rebondir et même aller peut-être un peu dans le même sens que Bob. La multiplication des écrans est effectivement un problème, mais ça en est devenu un problème à tel point que la télé est presque un élément de resocialisation. Quand en fait c'est quelque chose qui est regardé ensemble, parce que de multiples écrans, ça crée encore un phénomène encore pire, c'est que c'est vraiment chaque individu devant son écran, alors que la télé en tant qu'écran qui peut servir à regarder aussi des choses de droite et aussi des choses de gauche, et ben en fait c'est on peut avoir accès à plein de choses avec la télé. En tout cas, celle qui est reliée à Internet. Tu peux regarder du cinéma, des documentaires. Et c'est une possibilité d'échange et de discussion au sein d'une famille.
Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Vianney par rapport à la multiplication. C'est ça, la multiplication des chaînes de télé. C'est vrai qu'au départ, on n'en avait pas beaucoup, dans les années 80 notamment. Ça s'est beaucoup multiplié. Et est-ce qu'on n'est pas dans une société où tout se multiplie? Je pense, par exemple, là, aux dernières élections européennes en 2024, il y avait quand même, je ne sais pas, plus de 30 candidats. Avant, on avait une sorte de chose en commun. Enfin, là, c'est une hypothèse hein, que je fais, que je formule, qui pouvait rassembler, peut-être de droite, on ne sait pas, mais qui pouvait rassembler des gens, en tout cas. Et là, maintenant, on a l'impression que tout se divise, enfin, se parcelle, la multiplication des sources d'information aussi, puisque avant, on n'avait pas Internet. Donc, il y a Internet, il y a les chaînes de télé, il y a la radio. Est-ce que tout ça, ça a une incidence sur les divisions politiques? Alors là, je m'avance peut-être un peu. Est-ce que là, je vais un peu trop loin? La multiplication des points de vue, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose en politique? Est-il préférable d'avoir peu ou beaucoup de partis politiques? Allez, je sens que Baptiste va réagir.
En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on n'arrive pas à se rassembler autour d'un candidat, c'est ça que tu veux dire? Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi, en fait, Philippe. On peut revenir un peu sur la campagne. Parce que nous, on a fait un truc comme peut-être plus de 70% de droitards chez nous. Donc en fait, ils arrivent à se rassembler, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait la possibilité d'un pluralisme des chaînes. Mais le problème, c'est que les chaînes officielles ne sont pas des chaînes qui vont proposer l'émancipation, globalement. Après, effectivement, il y a des émissions qui vont être avec un peu plus d'ouverture. Mais à partir du moment où ces chaînes-là sont possédées par des gens riches, eh bien, du coup, c'est la culture des riches qui va être proposée. Le fait de dire oui, il y a beaucoup de propositions, moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il y a une proposition d'extrême droite. Et bah, le reste n'existe pas, donc forcément, c'est eux qui gagnent. Bon, Bob, fais attention.
Alors, j'ai pas compris du tout la question, moi. On m'a parlé de division, de multiplication, j'ai pas compris, là. C'est embrouillant. J'ai juste compris que là, il y avait des votes. Aïe, aïe, aïe. Les jeunes, de toute façon, de nos jours, là, ils ont bien changé. Hein, et quoi couper, là, mes fesses. Moi, c'est bon. Moi, je finis. C'est fini, là. Je comprends rien à cette émission. Désolé, mais moi, je connais que la multiplication euclidienne. Là, j'ai pas compris.
Alors, vite, Baptiste.
En fait, ce que tu dis est faux, à nouveau. En fait, on te fait croire qu'il y a plus de chaînes qui existent. Et en réalité, ça peut pas se multiplier, justement.
Alors, ce qui peut être intéressant de dire à nos éditeurs, c'est que la personne qui vient de parler n'a pas de télé aussi.
En fait, si j'ai la télé, si on a Internet, de toute façon, on a la télé. On peut tout à fait aller voir les chaînes. Et effectivement, ça donne beaucoup de liberté, notamment, on va pas regarder... On peut regarder les émissions quand on veut, etc. etc.
Bienvenue dans l'entrée.
On est où, là? Mais ce qu'il faut surtout, à mon avis, c'est que on se fédère pour... demander un réel pluralisme dans les chaînes de télé, quoi. Enfin, voilà. Parce que pour l'instant, on n'a que la droite, à nouveau, je le redis.
Tu as la télé, Vianney ?
Juste une petite chose rapidement. J'ai la télé comme tout le monde par Internet. Je voulais juste te dire que c'est, si on fait un débat sur les écrans et qu'on se limite juste à parler de l'aspect télévision, c'est forcément un peu limité parce que d'autant plus que chez les jeunes, la télévision se regarde finalement très peu. Un média qui a un peu du plomb dans l'aile, je sais pas, un peu comme les supermarchés aujourd'hui, quoi. Je pense que de se concentrer uniquement sur la télévision, c'est un peu une position de boomer, je pense.
Baptiste, c'est pas d'accord.
Alors oui, je peux être d'accord un petit peu avec cette affirmation, mais je pense que les boomers vont beaucoup voter, par exemple. Bon, après l'élection, c'est pas la seule manière de poser des idées. Bon, bref. Mais les jeunes, si ils regardent effectivement peu la télé, ils sont aussi impactés par les idées nauséabondes qui sont envoyés à la télévision. Parce que les jeunes regardent des shorts qui viennent de la télé, ils s'intéressent à Hanouna, ils s'intéressent à toutes ces merdes-là, quoi. Enfin, moi, je pense pas que quand on parle de la télé, on parle de quelque chose qui est de l'ordre du passé, quoi. Pas du tout.
En train de détruire ton truc, désolé, bon, on
va passer la parole à un jeune, justement,
oui,
Bob, un futur lycéen. Bob, on t'écoute.
Et ouais, yo l'équipe. Moi, là, les shorts de Hugo Décrypte, ça régale tous les jours. Que certes, on regarde peu la télé et que les réseaux sociaux, ça propage, pareil, des idées. C'est même peut-être des fois pire que la télé.
Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus?
Abonnez-vous à Bob Donut. Abonnez-vous à ma chaîne Bob Donut.
Bah, t'as les crampetés.
Sur Roblox.
Apagnien. Coucou bye, coucou bye.
T'es trop un coucou bye, qu'avez-vous?
Coucou, je t'aime.
Wakoupé, tu mon Kwakubaka, Bibou, Wakoupé, tu mon Kwakubaka, Doudou, Kwaku de t'aime, Kwaku de te veux, Bibou. bibou, beaucoup je t'aime, t'es mon doudou, kawaii, kawaii. Quoi couper, t'es mon quoi koubaka, bibou, quoi couper, t'es mon quoi koubaka, mon doudou kawaii né, t'es sucré, au miel, mon coco juteux, coco délicieux, au caramel. Quoi koubaka, beaucoup je t'aime. Quoi koubaka, qu'est-ce que tu m'aimes? Pas coup de boute si tu me next.
Coucou, je t'aime, babe.
Quoi couper.
Je vais repartir sur un sujet qui est un peu bizarre, peut-être pour vous. On est toujours au camping, donc c'est les débats du camping. Ici, tranquille, à côté du lac de la mort. Et puis donc, on a toujours Vianney, Baptiste, notre jeune Bob, Thibaut et Audrey. Et on va continuer sur les écrans, mais peut-être la question va vous sembler un peu étrange. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos rêves, si vous rêvez la nuit, mais imaginons qu'on est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand on rêve probablement de ce qui s'est passé dans la journée, des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a vues. Mais là, maintenant, on vit dans une société où, depuis quelques temps, donc, il y a des écrans. Et en plus, parfois, les écrans, on les utilise avant de dormir. Donc, les rêves qu'on fait la nuit s'inspirent-ils de la réalité qu'on vit réellement? Ou est-ce que les écrans qui nous envoient, je ne sais pas, les images de guerre, par exemple, renvoient une autre réalité? Mais c'est une réalité sur laquelle on ne peut pas réagir parce qu'elle est là comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, si on prend l'hypothèse, c'est une hypothèse, si on prend l'hypothèse que la fonction du rêve est de réinitialiser notre vie, qui est donc vécue dans la réalité, est-il possible que le rêve tente de réinitialiser la vie par procuration à travers des écrans? On se réveille le matin et on est dans l'impossibilité de changer le monde, et est-ce que ça crée pas une société un peu étrange? Voilà, Bob veut réagir tout de suite.
La question c'est les rêves, oui c'est ça. Je n'ai personnellement jamais vraiment rêvé d'écran de thé là, mais les rêves c'est des choses souvent qu'on aime mais qu'on ne contrôle pas, mais aussi c'est juste du n'importe quoi, bref, voilà, c'est la fiesta du slip. Et d'autres fois, c'est des rêves plus chill. Voilà, là en fait, j'esquive la question, mais en gros, c'est ça.
T'as le droit de tout dire.
Ah, bah j'ai le droit de tout dire. Bah alors, aussi, oubliez pas de vous abonner sur Bomb Donut sur YouTube. C'est faut trouver parce que j'ai que 8 abonnés, là, c'est la Hesse.
Je crois que je suis un des 8 abonnés en plus. Ok, Bob fait une petite pause. Il a envie de...
Pause de une nuit.
Voilà, pause d'une nuit. Il va faire des rêves justement, ça tombe bien, c'est le lien. Donc Louis, on parlait du rêve et on parlait aussi de l'impact des écrans.
Non, sur le rêve, c'est pas simple parce que pour moi, je m'en souviens jamais.
Si on ouvre les yeux au réveil, on l'a déjà oublié. C'est vraiment au réveil. Faut s'entraîner en fait, et quand on s'entraîne, après on s'en rappelle. Ce moment du réveil est intéressant, je trouve. Enfin, il révèle pas mal de choses. Je sais pas, toi, si Vianney, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça.
Je voudrais bien comprendre. En fait, tu veux dire que le fait d'avoir des écrans qui sont des bases pour tes rêves, ça fait que tu rêves de choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de prise après sur le réel.
Mais moi, je pense pas. Je pense que si on doit rêver et que ça a une nécessité, de toute façon, pour vivre au jour le jour, les écrans font partie de la richesse qu'on peut mettre en place dans les rêves. Moi, je suis pas choqué par toutes ces possibilités-là. Non, moi, je suis pas contre l'écran, de toute façon. N'importe quel objet dans notre vie doit être un peu maîtrisé, puisqu'en fait, si on ne fait que regarder un écran, on ne vit pas. Mais c'est toujours une question de dosage.
Il y a plein de côtés où le rêve, en fait, c'est un habillage, en fait, je dirais, un peu, quel que soit un peu l'habillage, en fait, c'est un habillage de ton inconscient, de ton subconscient, et comme on dit aussi dans les rêves, quand tu rencontres même des gens que tu connais, en fait, c'est avant tout toi-même, c'est toujours toi-même que tu rencontres, quelles que soient les images que tu as vues, que ce soit réel ou irréel. Je pense que ce soit pas le problème, c'est pas le problème.
Pété en rivière du mât, qui va me ramener chez moi. J'ai plus où sont mes clés, je vais la boucler parce que je suis saoulé. Maya, Maya l'abeille, elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guêpe. À la une, à la deux, à la trois, on ne bouge plus. Bouge pas sinon moi je te pique 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 pique. Moi je te pique pique. Bouge pas sinon moi je te pique 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 pique.
presto, tac tac, patac, tac tac, hélico presto, tac tac, patac, tac tac. J'suis pour
touché, touché par le vœu. Nain, si tu bouges, c'est sûr tu reviens demain.
Et n'abord, de la bord, car fait l'effort. Vous connaissez que le bouc fort comme il est à bord.
Pas de gars, c'est là. Où ça connaît le mot, c'est là. Mais ça touche à où ça va dire, moi, c'est là.
Il fait pas guilly guilly, moi, mi pique samda.
Hop, achappe les mailles ou les pics, trop tard.
Maya, Maya l'abeille. Elle vient avec ses copines chercher le miel.
Attention, il y a la guêpe. À la une, à la deux, à la trois, on ne bouge plus.
On va changer de sujet et j'ai en face de moi Thibaut qui n'a pas encore beaucoup réagi, donc ça va être l'occasion pour lui puisque le sujet le concerne.
Le tabac.
Le smartphone, puisque Thibaut n'a pas de smartphone. Ah. Voilà. Mais j'ai aussi Baptiste qui n'a pas de smartphone. Et puis nous trois, Audrey, Vianney, moi-même, nous avons un smartphone. Alors, pour ou contre, on va déjà partir sur une question très simple et puis après on va broder. Oui, basique, comme ça on a le droit de dire plein de choses. Thibaut, je vais te laisser la parole pour commencer. Est-ce que c'est un choix ?
Oui, c'est un choix, a priori. Pourquoi ? Moi, pour pas avoir un écran dans mon, justement, pour pas avoir un ordi dans ma poche, parce que je fais pas mal d'écrans aussi. J'ai pas envie d'en avoir en plus quand je suis à l'extérieur. Ça peut bloquer, parce que du coup, beaucoup de monde en ont maintenant, donc beaucoup de choses se font par cet intermédiaire-là aussi. Pour l'instant, je résiste. Ouais.
Jusqu'à quand ?
Ben, je sais pas. J'ai pas de programme là-dessus. J'improvise.
Oh, je voyais Audrey réagir quand. T'as dit que j'avais pas de smartphone. Effectivement, j'ai un smartphone depuis que j'ai repris le boulot. Parce qu'en fait, t'es arrivé au boulot et en fait, on te donne un smartphone. Ça devient assez classique d'une boîte. Voilà. Mais mon avis par rapport au smartphone, c'est que c'est la pire manière de faire de l'informatique. C'est-à-dire que le smartphone, il a plein de défauts. Je parle pas du côté écologique. Bon, par exemple, je considère que c'est l'informatique le plus fragile qui existe, c'est-à-dire qu'on met ça dans les mains d'ados qui plongent dans la piscine avec, alors que c'est des objets précieux en fait. Je pense que l'informatique devrait rester à l'abri dans une maison. Je vais vous donner un exemple qui me semble peut-être intéressant. Le smartphone, pour écouter Spotify, il est pratiquement impossible d'éviter la pub. Sur un PC, c'est tout à fait possible. Donc c'est juste un exemple pour dire, en fait, je pense que via le smartphone, on est beaucoup moins libre qu'avec de l'informatique. Bon, alors je ne parle pas d'utiliser Linux, etc., etc. En fait, trouver un moyen d'utiliser l'informatique sans être trop happé par ceux qui dirigent un peu nos désirs, à savoir les entreprises transnationales. Voilà. Je trouve que le smartphone, c'est un peu... En tout cas, c'est fragile à plein de niveaux différents, quoi.
Quand tu dis que c'est un objet précieux, qu'est-ce que tu entends par là ? Le smartphone est un objet précieux ?
C'est précieux dans le sens où ça demande beaucoup de ressources de produire un objet pareil. On s'habitue à ce que l'informatique soit aussi rapide dans un tout petit objet. Et en fait, c'est pas anodin, en fait. Le fait de pouvoir accéder à cet objet... En plus, si c'est pas cher, c'est parce que on délègue la production dans des petites mains qui en souffrent, en fait. Le smartphone, pour moi, est le symbole d'une société qui va trop vite.
Très bien. On passe la main à Audrey. Audrey, toi, tu as un smartphone.
Alors pourtant, moi, je suis pas la reine de la technologie. Si je remonte, je crois que j'ai eu un smartphone en lien avec mon travail aussi. Le fait d'être infirmière à domicile, maintenant les logiciels sont sur le téléphone. Et au départ, je n'avais pas grande application et c'est vrai qu'on se fait bouffer un peu par le système. Je refusais WhatsApp et puis je l'ai installé parce que je fais partie de l'association de parents d'élèves, bim. J'ai un seul signal parce que j'ai des potes. Enfin bon, bref, je me retrouve avec énormément d'applications sur mon truc. C'est compliqué de s'en départir, ça prend... pas mal de temps, j'ai pas de montre là par exemple, là, je suis en train de me dire que j'ai envie de m'acheter une montre parce que on prend le smartphone pour regarder l'heure et puis on voit qu'on a un message, qu'on a un mail qui est pas du tout important mais du coup ça nous prend la tête. Donc ouais, c'est pratique mais on fait plus de belles photos parce que le smartphone fait photo, enfin bon, ça nous ramollit le cerveau quoi. Il y a des points positifs, mais il y en a quand même pas mal de négatifs.
Merci Audrey. Et est-ce que Vianney, tu veux rajouter une dernière chose sur cette question, voilà, pour ou contre le smartphone?
Alors le smartphone.
Déjà, tu as un smartphone.
Ah oui, j'ai un smartphone. Un smartphone d'ailleurs plutôt performant, je crois. Mais je pense que le smartphone, on peut le résumer à peu près comme l'outil d'aliénation ultime. Tout à l'heure, Baptiste parlait fort justement de cette capacité d'avoir accès à tellement de choses très rapidement, ce qui en soi aussi est un problème. Et c'est aussi que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, par le biais du smartphone, c'est aussi tout un ensemble d'entreprises et puis voire éventuellement même de, quand ils en ont besoin, d'État ou de choses comme ça, ils ont accès à nous. En fait, c'est comme une espèce de fil à la patte qu'on peut trimballer partout. Avec un smartphone, on peut nous géolocaliser. Avec un smartphone, on peut nous écouter. D'ailleurs, les smartphones ne se gênent pas pour le faire. Quand on peut avoir des discussions, on peut avoir des publicités qui arrivent par rapport à des choses dont on a discuté. C'est pour ça que je le résume comme étant l'outil d'aliénation ultime, quoi. Je crois que avec un smartphone dans la poche de chacun, une société totalitaire, elle a plus grand chose à faire pour tous nous verrouiller.
Baptiste, tu voulais réagir, non ?
Moi, je suis étonné, je pensais que Vianney ferait un peu l'apologie de l'objet, puisque c'est très utile pour lui, en fait, je pense. Mais en fait, c'est très utile pour tout le monde. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec le smartphone. Je sais pas, moi, en fait, je me sers encore d'un lecteur MP3. Je me sers encore d'un appareil photo. Et en fait, avec le smartphone, c'est comme si tout était là, quoi. Je trouve ça un peu flippant. Ouais, ouais.
Le monde est à ta porte, mais tout le monde peut rentrer dans cette porte-là, ouais, aussi, quoi.
Yozo, moi je bois plus d'alcool. Tant ta femme, boum. Moi je bois plus d'alcool. Que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Mais d'où c'est yé qui soupe. Moi je bois plus d'alcool. Que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Moi je bois plus d'alcool. Jusqu'à ta mauvaise bouteille, j'aime le moins aller quoi, c'est bouchon. Hein? Je vomis après, je reproche de dans rhum, la café, mais vini en bêta, fais moi tanguy, mais ça pas méchant, ça pas méchant, ça pas méchant. Faut que moi fini parce que moi ça adam. Moi je bois plus d'alcool, que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Moi je bois plus d'alcool, que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Champagne, il a pété beau. Nous cabons ça comme si c'était go. Fait from we body en les coco. Tête la jabba, donc nous cabons ça chaud. Yozo, passé, c'est ta yozo. Ou cacho, j'ai mangé, mettre ça chaud. On est pour qu'arriver, dit yozo. Pas tout ça, vom là, il papi chaud. Moi je bois plus d'alcool. Que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Moi je bois plus d'alcool. Que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Moi je bois plus d'alcool. Que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Moi je bois plus d'alcool. Que de la soupe. Moi je bois plus d'alcool. Moi d'où c'est yé qui soupe. Yozo. Tant sa femme, tant sa femme, tant sa femme. Boum.
On est toujours au débat du camping, hein. C'est le débat du camping du lac de la mort. Et nous sommes toujours en compagnie de Vianney, Baptiste, Thibaut et Audrey. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que c'est important de savoir qui parle, qui en est, avant de débattre, avant de poser un sujet? Alors là, j'ai essayé de le faire, par exemple, en présentant Thibaut et Baptiste, qui n'ont pas de portable, mais peut-être qu'on a envie de connaître aussi chacun. Est-ce que c'est important? Alors ça dépend peut-être du sujet dont on traite, à mon avis.
Oui, c'est bien de dire qui on est. Mais après, le faire dans l'anonymat, ça me paraît pas inintéressant non plus. Non, mais je pense que ce qui serait peut-être plus difficile pour moi, c'est de me présenter, de dire mon prénom. Là, c'est toi qui l'as fait, donc quelque part, ça passe plus facilement. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez.
Audrey ?
Pour l'instant, on n'a pas évoqué des sujets trop clivants ou intimes ou dérangeant, donc moi ça me dérange pas de dire qui je suis, j'ai rien de... Ça me dérange pas. Après, est-ce que ça apporte quelque... Voilà, c'est ça. Là, j'ai apporté une information sur ma profession pour faire le lien avec le smartphone et puis les écrans, en fait, hein, voilà, la télé. Voilà.
Vianney, oui. Est-ce qu'on a besoin de savoir qui tu es pour qu'on continue le débat ou pas?
Alors déjà, il faudrait savoir chacun qui on est nous-mêmes, quoi. Non, mais après, c'est intéressant, c'est une question, c'est de savoir quels sont les éléments qui sont importants à savoir, qui sont suffisants pour pouvoir imaginer d'où parle la personne, quoi. Qu'est-ce qu'il est important de dire ? Est-ce que c'est important de dire sa profession ? Est-ce que c'est important de dire son positionnement politique ? Est-ce que c'est important de dire la profession de ses parents aussi ? Parce que ça, c'est important. Si on fait partie de telle ou telle minorité, par exemple, des choses comme ça.
En fait, je suis même en train de me dire que plus il va y avoir d'informations et plus ça va être intéressant. En fait, le micro-trottoir... Je suis pas sûr que ce soit intéressant plus que ça, puisqu'on peut pas savoir d'où on parle. Enfin, je pense vraiment. Parce que là, ton émission là, c'est récréatif, c'est ça vient d'où ça ?
C'est la société du spectacle, on peut dire. Je pense que je saurai à la fin du débat, je saurai à peu près ce que c'est.
Oui, je pense que c'est plus intéressant effectivement d'avoir un peu d'historique. Après, ça dépend de l'importance du débat, ça dépend comment il est diffusé, pour qui.
En fait, t'es un peu filou, quoi. Parce que j'ai l'impression que dans ta démarche radiophonique, parfois tu peux être un peu malhonnête, non ?
Ça m'intéresse.
De temps en temps, tu peux cacher un peu ton micro. Des fois, t'es complètement, tu vas le montrer et puis tu vas être très à l'aise.
Tu parles des anciennes émissions que j'ai faites, d'accord.
Ouais, bah, globalement, ce que je connais de ce que tu fais. Mais en même temps, du coup, c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que c'est une pseudo-transparence quoi, qui donne un peu de... On est curieux de savoir ce que tu cherches dans tes émissions, en fait. Au fur et à mesure de l'émission, on va découvrir. Et en fait, tu découvres en même temps. Enfin, c'est intéressant. J'aime bien cette démarche.
Ok, je ne sais pas si je garderai mon montage, mais merci.
Tiens.
Oui, ça, on pourra en parler aussi. Qu'est-ce qu'on garde pour diffuser l'antenne et qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Alors, on va passer à autre chose, autre sujet. Des questions courtes encore, pour ou contre, ça vous va les pour ou contre ? Alors, on en parlait hors micro, tout noter. On est dans une société maintenant où on note les restos, on note les campings, on note les blablacars. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi on noterait pas, pourquoi pas un parti politique ? Parce que si on notait chaque parti politique, est-ce que ça serait une élection plus juste ou pas ? C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, 10 candidats et à chaque candidat, on met une note. Donc ça serait un petit peu long à faire, hein. Mais au moins, il n'y aurait qu'un tour. Et puis, si vous voulez pas répondre à cette question, bah, qu'est-ce que vous pensez du fait de tout noter, les restos, les blablacar, et tout ça ? Noter, voilà, on est dans une société. Qui veut prendre la parole ? Audrey.
Alors, il faut savoir que j'ai pas demandé la parole, mais bon... Alors, je vais noter cette émission et puis ça va être sévère. Bon, alors moi personnellement, je n'ai jamais noté personne. Voilà, j'ai vraiment du mal avec le jugement parce que des fois sous la colère, sous voilà, quand je trouve que les gens ne prennent pas le temps vraiment de réfléchir et de mettre quelque chose de très constructif. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas les exemples que tu donnais, je pense que c'est vraiment sous le c'est tellement spontané qu'il n'y a pas trop de réflexion et puis ça peut avoir des conséquences pas agréables en tout cas au niveau humain quoi. Je pense quand on casse une personne là gratuitement. Bon voilà, ça c'est mon avis. Noter tout le monde, noter les partis politiques, je sais pas, ce serait sous quel critère, sur quoi, quelle note, ça veut dire qu'il y a des sous-sujets sur l'élocution, sur la franchise, sur le programme, sur oui. Mais du coup, il faudrait quand même des critères sur quoi tu te bases pour noter chaque œil de 1 à 10. On mettrait une note plutôt que d'aller mettre un bulletin de vote. Qui veut prendre le micro ? Thibaut !
Ouais, alors je note tout le temps sur mon smartphone, effectivement.
Maintenant, même sans avoir de smartphone, c'est souvent par mail. Des fois, vous devez vous noter le livreur, vous devez noter, je sais même pas. Amazon. Ça m'est arrivé d'avoir plusieurs mails. Bah, moi, je commande très peu. Alors, Amazon, je refuse de commander sur Amazon, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de commander, même sur les trucs de seconde main. Où on demande de noter, d'avoir une appréciation sur la personne qui vous a vendu les deux t-shirts enfants. Enfin, c'est délirant, quoi. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à être visiblement sur le haut de la... Enfin, bon, bref, j'ai jamais... Même si je suis content du produit ou de la livraison, de la rapidité ou je sais quoi, je note pas, même en positif, je refuse de noter. Voilà.
Alors, du coup, moi, si je le fais quand je commande justement des livres d'occasion, si c'est le descriptif de l'article. Point, quoi, c'est tout. Donc en gros, c'est 5 et 5 ou 0 si c'était vraiment tout pourri, mais je ne fais pas de moyenne.
Et au-delà de ces exemples personnels, hein, qu'est-ce qu'on peut penser de cette société où on nous habitue à noter, à évaluer tout, et je parle des émissions de télé où on doit dire on vote pour tel candidat ou... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est présent partout. À l'école, on met des notes. Enfin, est-ce que c'est bien de tout noter, de tout évaluer? Alors, je mélange un peu plein de sujets. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Vianney?
Oui, c'est très large. On a pu évoquer plusieurs fois pendant ces jours, qui étaient charmants à plein d'aspects, on a pu noter que notamment sur TripAdvisor, il y avait des choses intéressantes qu'on pouvait y trouver. On le prend un peu comme une blague, mais en fait, quand on va voir ces avis-là, même juste rien que les voir, ça nécessite un clic, ça nécessite une action sur l'objet smartphone. Et du coup, est-ce qu'on justifie pas un peu ce système, même quand on va pas participer, mais juste quand on va l'observer, quoi, le regarder. Et par rapport à ce que tu disais sur noter les partis politiques, je trouve que c'est toutes ces discussions-là, toujours, souvent, c'est intéressant dans la mesure où, en fait, tu as changé toute la société avant. C'est des réflexions qui sont intéressantes uniquement pour imaginer comment pourrait être une société un peu différente, et notamment dans laquelle où tu as renversé tous les rapports de pouvoir, en gros, où tu as détruit le capitalisme. Alors, dans ces cas-là, toutes ces réflexions sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme autre système pour faire fonctionner les êtres humains ensemble, là, ça devient vraiment intéressant. Mais la première des réflexions, déjà, c'est de détruire le capitalisme.
Baptiste,
si tu as quelque chose à rajouter.
Oui. On peut dire qu'on ne veut pas noter, qu'il n'y a pas de... Mais on est humain. Et en fait, quand on s'intéresse à un produit, qu'on veut justement trouver des... Eh ben, mine de rien... On a quand même un petit coup d'œil sur les avis, sur le... Enfin, moi j'ai l'impression quand même que c'est la médiatisation de sentiments. Ça reste humain, en fait, le fait de noter. Mais les dérives, je pense que je peux reprendre la critique que j'avais du smartphone. Le problème, c'est que c'est tellement contrôlé par les forces de l'argent, les forces capitalistes. C'est dans ce cadre-là que les avis ne sont pas une bonne chose. Mais au final, avoir un avis... sur ce qu'on nous propose dans la société, moi je trouve ça plutôt une bonne chose.
J'ai mal avec l'auto-évaluation, ça me fait penser à la période Covid où dans des assos on se retrouvait à vérifier des passes sanitaires alors qu'on n'avait aucune légitimité, quoi. Moi j'ai du mal avec le contrôle entre les citoyens, quoi. Ça me fait penser à ce sketch de Blanche Gardin là, avec les bips là, pour juger le... je ne me rappelle plus exactement, mais... Vous appuyez sur un petit personnage qui est content ou qui n'est pas content pour juger le travail de la femme de ménage qui a nettoyé les sanitaires correctement ou pas, quoi. Et elle explique très bien, Blanche Gardin, que ça pour nous, ça nous paraît anodin, voire c'est marrant, quoi. Ça fait comme un petit jeu vidéo, sauf que ça peut avoir des conséquences un peu désastreuses pour la personne, justement, qui est venue faire le ménage, quoi.
Thank you.
encore un ou deux sujets. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image qu'on peut rendre. Par exemple, on parlait tout à l'heure des écrans. Bon, je vais citer des noms, tant pis. Hein. Jordan, qui lui, se fait des selfies, qui est toujours souriant, voilà, qui se donne une image. Alors, une image qu'il transmet à travers ces réseaux-là. Imaginons, par exemple, que Jean-Luc fasse des selfies. Imaginons qu'on ait le visage de l'un et les idées de qu'on mélange tout, enfin qu'on inverse.
Je vois à peu près ce que tu veux dire, mais c'est... Ouais. Oh non, moi je pense juste que si la politique c'est de la publicité, du coup c'est forcément celui qui aura la thune qui va être mis en avant. Et donc ça il faut interdire en fait, enfin, faut trouver une autre solution pour mettre en avant les candidats. Enfin, y a rien de pire que la publicité, quoi. C'est de la propagande. Je crois pas que ce soit une bonne chose que ça prenne autant d'importance. Voilà.
Sur l'idée de la propagande, enfin, d'utilisation de la publicité en politique, en fait, je crois que l'origine du mot propagande, c'est de se faire connaître, de faire connaître ses idées. Et le mot, maintenant, il est utilisé beaucoup d'une manière péjorative. Et je crois que ça a été une manière, en fait, de dépolitiser la société, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu parlais de politique, tu faisais de la propagande. Il faut diffuser ses idées. Et puis, tu apprends à les diffuser de différentes manières. Et à l'origine, c'était des tracts, des affiches, même les graphes sur les murs et tout ça, en fait, quelque part, c'était de la propagande.
En fait, le problème, c'est que le canal par lequel passe la propagande, c'est un canal qui coûte de l'argent. Et du coup, bah, ça va forcément biaiser un peu le système de propagande. Si la politique, c'est fabriquer des images, pour moi, il y a un truc qui... Ça peut pas passer que par là. Il faut que ça passe aussi par la relation, les gens entre eux, je sais pas. Il faut que ce soit presque charnel. Allez.
C'est une rencontre, une vraie rencontre.
Trouver une manière de faire de la poésie en politique. Et du coup, oui, ça pourrait passer par un clip. Mais en fait, si le clip est le seul moyen de parvenir aux oreilles et à la vue des gens, eh bien, du coup, c'est par le média. Et donc, le média, il est possédé. Et donc, on est dans une variable capitaliste. Donc, oui, il faut s'éloigner de ça et recréer des... Moi, j'aime bien... Murray Bookchin, et sa manière de penser la société, c'est à plus petite échelle, donc c'est ça l'idée. C'est qu'un parti de masse va avoir besoin de canaux massifiés, donc pour moi ça va être un peu moins poétique. Enfin, mais c'est très confus ce que je dis.
Ouais. Après, bon, en termes de campagne, en fait, c'est effectivement le côté financier. Il faudrait juste un budget défini pour chaque, pour qu'ils aient le même en fait, budget, pour voir ce qu'ils en font. Après,
ouais, ça, c'est intéressant.
Après, ceux qui ont les gros budgets font des trucs tout pourris aussi des fois, mais souvent même. Mais au moins, il y aurait un point d'égalité là-dessus. Quoi.
Donc, on parlait de propagande, hein, donc de diffuser des idées. Donc, on le fait par rapport à des clips, donc des écrans, encore une fois. Par rapport à des tracts, des tags, tu disais aussi, des affiches. Est-ce que tout le monde lit les programmes? Quand on a 30 candidats, est-ce qu'on va lire les 30 programmes? Voilà, pour me parler de multiplicité tout à l'heure.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de lire tous les programmes. Je pense qu'il faut abattre le capitalisme.
On va aller vers la conclusion de ce débat. Audrey a dû partir puisqu'il est tard. Nous sommes toujours pour les débats du camping. Les débats du camping à côté du lac interdit. Le lac de la mort, le lac interdit, celui dans lequel nous n'avons pas le droit de nous baigner. Et on va terminer avec quelques questions. Bon, on parlait de politique. Alors, qu'est-ce qui motive un élu à se présenter à des élections? C'est une question un peu fallacieuse, désolé. Est-ce que c'est une bonne question, justement, ce que je viens de poser? Est-ce que c'est une bonne question ou comment je pourrais la formuler pour que cette question devienne une bonne question? Est-ce que les journalistes posent des bonnes questions ou est-ce qu'ils préfèrent faire des débats pour faire de l'audience? Est-ce que ça rend intelligent d'écouter des débats, d'y participer?
On va rendre l'antenne là. C'est en train de se barrer vraiment dans un.
Est-ce que l'audience est un problème?
On est sur quoi, sur RTL, c'est ça?
Est-ce que l'audience est un problème? Non, on n'a pas beaucoup d'audience. Et comment faire partager au plus grand nombre les débats qui rendent plus ou moins intelligents? Les débats tels qu'on les voit dans les médias ou à la télé, par exemple, on se bat, mais est-ce qu'il y a des idées qui émergent? C'est quoi un bon journaliste? Là, je m'auto-flagelle. et c'est quoi un bonhomme politique et c'est quoi des bonnes idées politiques. Voilà, si vous arrivez à vous démerder avec tout ça, bon courage.
Coupez.
Pianez.
C'est un ensemble de questions très intéressantes. Ce serait intéressant de savoir tes réponses.
Thibaut
ne se prononce pas.
Thibaut ne se prononce pas. Tu voulais. Alors, un mot de conclusion.
Non, je pense que là, on ne peut pas repartir sur. Ça, c'est trop, quoi. C'est... Philippe. Il faut savoir stopper un débat, quoi. Enfin, tu te rends compte que tu balances, je ne sais pas combien, une vingtaine de questions, là, alors qu'on est sur la fin du débat. Voilà.
C'est une question de conclusion.
Il
faut que tu retravailles la finalisation des débats, je crois.
Bon, alors, je vais expliquer aux auditeurs. En fait, toutes ces questions, je les ai notées au réveil, là, cette semaine, au camping.
Je voulais tout balancer.
Voilà. Non, mais on parlait tout à l'heure du rêve, et je me disais que juste au moment où on se réveille, j'ai eu plein de raisonnements comme ça, un peu foutraque, comme je viens de vous le dire. C'est une sorte de témoignage de réflexions qui sortent comme ça au camping un matin, voilà, au réveil. Voilà, est-ce que ça vous a plu quand même de participer à ce débat ?
Merci.
Ah oui, c'était très bien et vraiment j'ai beaucoup apprécié les échanges de chacun. Ça m'a beaucoup apporté et c'est comme ça. Il faudrait qu'il y ait des débats comme ça plus souvent à la télé.
Lèche-cul.
À mon sens, un débat, ça devrait être quelque chose où les idées évoluent. Est-ce que vos idées ont évolué depuis le début de ce débat ou absolument pas ?
C'est pas possible. Hein. Donc, y avait Frédéric Taddeï qui proposait des débats qui étaient plutôt intéressants.
C'est vrai.
Voilà.
Et puis Thibaut, ce sera le mot de la fin.
Fin,
voilà, c'est la conclusion. Bah, je vous remercie d'avoir écouté ce débat. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, peut-être.
Vous avez demandé l'infini. Ne quittez pas. Vous avez demandé l'infini. Ne quittez pas.
Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
Vous avez demandé l'infini. Ne quittez pas.
Libéré de l'anonymat. Je confesse tout de moi. Au chiot de ma vie privée. Que c'est bon d'être surveillé. Je me sens ô combien rassuré. À l'entrée du ciné, je suis palpé.
Je fais des fûts teintés sur mesure, les mains sur le buste, redonne la confiance.
La chitane sur la lèvre,
comme Flynn en col en mousseline, la fraise entre les dents, vermoulu vermoulant, combat déroutant, un passé violent, la pétanque dans les champs.
Bébé Jean,
vous avez demandé l'infini, ne quittez pas.
Besoin de sang neuf, dissous de sang neuf, coagulant des œufs, suis mon regard lubrifiant, les têtes de nœuds impatients, les murs ont des oreilles, l'humour censé désamorcer les tensions, lamentable lamentation, la vraie censure est une carte vermeille, la forme parfaite me fait de l'effet.
Vous avez demandé l'infini, ne quittez pas. Vous avez demandé l'infini, ne quittez pas. Vous avez demandé l'infini, ne quittez pas. Vous avez demandé l'infini, ne quittez pas.
Merveilleux.
Et le spectacle continue, une émission réalisée et animée par Philippe. Avec nos participants du jour, j'ai nommé Audrey, Baptiste, Bob, Thibaut et Vianney. Bye bye fly guy. À la programmation musicale, il y avait Jonathan, PLL, Yozo, Thomas Bangalter et MC Salo.